It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Fenêtre sur le monde vous convie cette semaine dans le monde arabe, entre la Syrie, le Maghreb, cette région qui a connu il y a 10 ans maintenant, en 2011, ce que l'on a nommé les printemps arabes. Et nous allons revenir sur l'historique des printemps arabes, sur la place de la diplomatie française, sur ce qu'elle a voulu faire pendant cette période, sur la manière dont elle s'est prise, sur ses échecs et ses réussites, et essayer également de voir où en est le monde arabe aujourd'hui. Dans cette émission, je reçois Jacques Miard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes maire de Maisons-Laffitte. Vous avez été député pendant plusieurs mandats. Et notamment en 2011-2013, vous vous êtes rendu dans la région. Vous avez aussi réalisé un rapport parlementaire sur les printemps arabes, ce qui est une des activités des députés. Les électeurs parfois se demandent à quoi servent les députés. Ils servent notamment à produire de l'information et de la réflexion. Et là, plusieurs rapports parlementaires que vous avez réalisés sur la région. Donc celui-ci sur les révolutions arabes, ça c'était en 2013.
En décembre 2013, oui.
Voilà. Et l'autre, c'était sur la France et la Méditerranée en 2011.
Oui.
Et les deux sujets d'ailleurs étant
en 95,
95 plus anciens.
Et il y en a un autre qu'il faut citer, ce sont les vecteurs privés d'influence internationale dans lesquels les religions ont une place importante.
Parce que vous étiez membre de la commission des affaires étrangères.
Absolument.
De l'Assemblée nationale. Peut-être, avant de voir les printemps arabes, dire un mot sur le fonctionnement du Parlement, parce que pour les lecteurs lambda, c'est parfois un peu obscur. La commission des affaires étrangères, à quoi sert-elle à l'Assemblée nationale? Quelle est sa fonction? Et notamment, on voit que dans les rapports parlementaires sont toujours réalisés et signés par des députés de plusieurs bords.
Oui, alors, d'une manière générale, premièrement, il faut, si j'ai une sorte d'appétence pour la politique étrangère, c'est que je suis aussi conseiller des affaires étrangères dans le privé, dans le civil, comme j'ai tendance à le dire, et que j'ai passé de nombreuses années à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. J'ai été aussi dans le cabinet de Michel Auriac, ministre de la Coopération. Et donc, c'est pour moi quelque chose de très important dans lequel la France doit tenir son rang. Et elle doit avoir une politique étrangère indépendante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Car elle est complètement vassalisée, inféodée, soit aux États-Unis, soit à l'Allemagne, et elle poursuit le mythe de l'euro-béatitude avec le président Macron. Cela étant dit, effectivement, je me suis rendu à de nombreuses reprises au Maghreb et au Machrek. J'avais d'ailleurs servi en Algérie lorsque j'ai commencé ma carrière diplomatique, et j'ai pris conscience ce que c'était en Algérie, la force et la prégnance de l'islam sur une société. Je suis arrivé en Algérie au moment de septembre 93, au moment du Ramadan. Et pour rien vous cacher, j'ai vu combien tout un peuple suivait la règle religieuse. À l'époque, il y avait encore quelques cafés ouverts sur l'ex-Mohamed V, Didouche Mourad actuellement. Et je me souviens que, allant manger mon steak frites tamidé avec un verre de Médéa, et j'ai vite arrêté le Médéa parce que c'est très fort, je me souviens que je demande au jeune restaurateur « Est-ce que je peux déjeuner ?» Et il me dit « Mais toi, tu fais pas carême. » Dans les termes « Tu ne fais pas carême. » Et bien sûr, après, on ne parlait plus de carême, on parlait ramadan comme la règle. Donc on voit que c'est vraiment, pour moi, ça a été la révélation, presque le choc culturel. Je sortais frais et moulu du concours du ministère des Affaires étrangères, j'arrive à l'ambassade de France à Alger et je découvre un peuple qui suit une règle religieuse, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de l'islam. Et ensuite, je me suis rendu à de nombreuses reprises, j'ai négocié bien sûr un certain nombre, parce que j'étais le juriste Jean-Claude Trichet dans les histoires de garantie et de promotion des investissements, notamment avec la Chine, dont on parlera peut-être à une autre occasion. Et lorsque je suis arrivé en 93 à l'Assemblée nationale, j'ai opté pour les affaires étrangères. Qui fait quoi ? elle donne des avis et elle auditionne, bien sûr, les acteurs, le ministre des Affaires étrangères, un certain nombre d'ambassadeurs et autres, et aussi des ministres des Affaires étrangères et étrangers, pour suivre les relations internationales. Et n'oubliez jamais, elle analyse également et donne un avis sur tous les projets d'accord, soit l'approbation, soit la ratification. La ratification étant la formule pour les traités importants signés au nom du chef d'État. Mais c'est elle qui donne un avis, et ensuite c'est le plénum, bien évidemment, qui suit ou non l'avis des affaires étrangères. Donc c'est très important. Et à cette occasion, j'ai fait une très longue mission en 94-95 dans tout le pourtour méditerranéen. Et là, j'ai intitulé d'ailleurs ce rapport « La France, la Méditerranée, les nouveaux enjeux ». Et en réalité, ce sont les enjeux de la montée en puissance de l'islam intégrisme. Et j'ai rencontré à cette époque nombre de dirigeants des pays du Maghreb et du Mashrek. J'ai été en Tunisie, j'ai eu un entretien avec le grand Moufti. Vous voyez, ça ressemblait un peu à Tintin. Entretien de Jacques Mier avec le grand Moufti. C'est quand même, ça sonne, n'est-ce pas? Et puis au Maroc, bien évidemment, où là j'ai constaté quel était le poids de l'islam sur notamment la condition de la femme, puisque toujours maintenant, comme vous le savez, les femmes sont, je dirais, dans une citoyenneté diminuée. J'ai rencontré en Palestine et en Israël les leaders tant israéliens qu'à l'époque le président des Palestiniens. Arafat, oui, j'ai eu un long entretien avec lui, qui était, je dirais, un homme qui savait aussi manipuler les choses. Et puis en Turquie, très intéressant, en Jordanie, bien évidemment. En Turquie, j'ai constaté qu'il y avait notamment des gens qui résistaient à l'intégrisme et qui ont été balayés par la suite, qui ont été notamment les francs-maçons. Il y avait une très forte présence des francs-maçons et des loges en Turquie, mais qui n'ont pas résisté à la montée en puissance de l'intégrisme, notamment de toute l'AKP, etc., et d'Erdogan.
En 94-95, il y a la guerre civile en Algérie qui dure depuis quelques années. C'est les premiers attentats en France.
Alors, en Algérie, oui, c'est le premier attentat, notamment avec quelqu'un, Kellal, qui avait été tué par la gendarmerie à Lyon, et qui disait ceci, parce que c'est là où les gens ne comprennent pas, qui disait « je ne peux pas vivre dans un État où on mange du cochon ». C'est aussi simple que ça. Récemment, d'ailleurs, sur un plateau de télévision, LCI pour ne pas la nommer, hier, j'étais confronté à quelqu'un des écolos du mouvement écologiste, c'est LFI. Et il faisait une analyse en disant « mais à quoi ça sert tout ça? On a tous les moyens pour lutter ». Sauf que eux faisaient une analyse marxiste et laïque du phénomène religieux. Or, c'est pas du tout, je dirais, la norme et la conviction profonde des intégristes. C'est qu'en réalité, eux sont dans une vision eschatologique. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde qui leur dit « moi, au nom de ma foi, et mon Dieu me dit, si tu veux gagner le paradis, tu tues les mécréants ». C'est ça le problème. Et donc on est dans une vision qui est eschatologique. Et ce que ne comprennent pas nos concitoyens en France, c'est qu'il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a de musulmans. Vous avez vu récemment notamment que le gouvernement est arrivé à un accord avec les leaders de la trilogie de l'islam en France, à savoir les Turcs, les Algériens et les Marocains, pour essayer de trouver un accord. Bien. Très bien, ils vont s'adresser, ils vont former un certain nombre d'imams. Mais tout ça est peine perdue, parce qu'à côté, il y a un gars qui va se lever qui dit « moi, je vais t'enseigner le vrai islam. Et ce que tu dis, c'est pas vrai. » Et donc, ils s'auto-proclament imams. Et c'est ça que ne comprennent pas les gouvernements successifs, c'est-à-dire que quelle que soit la capacité, la pédagogie qu'ils enseignent pour pouvoir, je dirais, former des imams et leur faire respecter les principes de la République, c'est peine perdue parce que les salafistes, ils sont en dehors. Et ils ont une vision du monde qui est eschatologique et qui leur dit, parce que c'est une vraie secte, c'est le problème d'ailleurs de l'islam, parce que depuis 7 siècles, l'islam passe par des phases multiples de ce type, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une sorte de phénomène sectaire qui prend le dessus et qui impose sa loi. Et les fondamentalismes, c'est ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un monde rationnel. Je me souviens que lorsque j'ai fait ce rapport en 94-95, Monseigneur Lustiger, qui était donc à Paris, disait « Il faut que l'islam passe sa religion à l'aune de la raison ». Peine perdue, parce qu'à chaque fois que ça s'est produit, le gars qui a voulu faire ça, il a été débarqué, assassiné, évincé. Donc on est face à un phénomène qui répond à une norme religieuse et qui est toutes les normes de rationalité. Parce que l'ordre eschatologique, c'est de dire, effectivement, je dois imposer au monde la charia et mon Dieu est le seul Dieu. Il y a un ouvrage que vous devriez lire de Pierre Conessa qui dit ceci, « Avec Dieu, on ne badine pas ». Et quand vous regardez à travers le monde, je dirais, l'impact religieux de certaines religions, et nous, on est complètement hors norme avec la sécularisation, avec la laïcité. Les Américains ne comprennent rien, puisqu'ils reconnaissent comme religion la scientologie. Et je voudrais dire, à propos de la scientologie, vous allez vite comprendre, où la force de croire dépasse la rationalité. J'ai participé à 3 missions très importantes d'information et d'enquête sur les phénomènes sectaires. Et nous avons auditionné un homme qui était donc un cadre de la scientologie et qui nous a déclaré, qui m'a déclaré, parce que c'était en mission d'information, benoîtement, avec un aplomb incompréhensible, qu'il avait signé, tenez-vous bien, un contrat de travail avec la scientologie pour 2 siècles. Que voulez-vous dire face à des affirmations? Parce que le type le croyait. Le problème, c'est que vous êtes dans des choses où les gens sont hors normes. Et la formule à l'époque qu'on employait, c'est qu'on tombe dans une secte à un mauvais moment de la vie, et puis tout d'un coup, on a un éclair quand on l'a, on en sort à un bon moment. Eh bien, pour revenir au salafisme, il y a 4 ou 5 écoles de salafisme. Hein, Al-Nour, moi je me souviens en Égypte d'avoir rencontré des salafismes qui étaient d'ailleurs au gouvernement avec Morsi à l'époque, qui ne serraient pas la main des femmes. Lorsqu'on est arrivé, ils ont dit « attendez, on s'arrête », ils ont commencé par faire la prière, ce qui nous a permis d'aller nous laver les mains, bref. Mais en réalité, eux, c'était ce qu'on appelle les salafistes quiétistes, c'est-à-dire plus ou moins qui ne vont pas, je dirais, employer la violence. Mais il y en a qui vont jusqu'au djihadisme. Donc, vous êtes en face de gens qui n'ont pas les mêmes modes de pensée que vous et qui vont suivre, notamment pour les salafismes, qui sont des fondamentalismes depuis les frères musulmans, n'est-ce pas? Puis ils ont donc aggravé à la lettre ce qui est écrit dans le Coran. Et ce qui est écrit dans le Coran, c'est tout et n'importe quoi à l'envers. C'est aussi simple que ça. Ça a été écrit, et on le sait, de sources historiques, ça a été écrit par un homme qui a justifié l'assassinat, qui a justifié de massacrer les impies, les juifs et j'en passais les meilleurs. Et c'est ça. Il faut quand même le regarder. Alors, bien sûr, vous avez d'autres écoles, notamment les soufis, qui, eux, font une interprétation ésotérique du message du Coran. Mais ils sont minoritaires. Et aujourd'hui, vous êtes en face de gens qui sont véritablement le haut du panier en termes de l'intégrisme, etc.
Et c'est eux qui tiennent les mouvements intellectuels.
Et c'est eux qui partent. Vous savez, c'est le phénomène menchevique-bolchevique. C'est-à-dire, ce sont toujours les actifs minoritaires, puissants, prêts à tout, prosélytes, qui gagnent sur les mous. C'est bien connu. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs chez nous, parce qu'en réalité, on ne voit pas comment. Alors maintenant, je voudrais revenir au printemps arabe. Parce que c'est intéressant. Moi, j'avais fait des missions, notamment plusieurs missions, notamment en Syrie, avant les événements. Et je vais raconter une petite anecdote qui donne bien, je dirais, l'aveuglement dans lequel la France est tombée. Et je reviendrai ensuite sur le mouvement proprement dit. Nous avons eu, donc j'étais, je crois que c'était 2009-2010, mais c'était avant les événements, un déjeuner à l'ambassade de France avec tous les représentants des religions. Alors du côté des chrétiens, pardon, ils sont nombreux, parce que là je peux vous dire qu'une chatte n'y retrouve pas ses petits, entre les orthodoxes, les malékites, enfin pas les malékites, les melkites, etc., l'église de Rome, les orthodoxes, bon bref, ils sont nombreux. Donc vous vous retrouvez à 5-6 prélats, avec, en très bonne manière, et avec le grand moufti. que je connais un peu, qui malheureusement a perdu son fils assassiné par Daesh, et lui-même vient d'être assassiné. C'est un homme qui nous recevra. Le début de la bénédiction, c'est le représentant de Rome qui l'a donné au moment du repas. Alors bon, moi je fais avec, hein, parce que je ne suis pas tout à fait de religion de ce côté-là. Et à la fin, c'est le grand moufti qui a donné sa bénédiction. Et puis, au moment du café, les prélats chrétiens m'ont pris à part et m'ont dit « Vous devez savoir une chose. » On est en 2009-2010, avant les événements, bien avant les événements. Ils m'ont dit, montrant le grand moufti, « Nous n'avons aucun problème avec eux, mais nous sentons monter la violence de l'intégrisme islamique. » Et ils m'avaient averti. Très bien. Et donc, ces événements se sont déclenchés, comme vous savez, avec l'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie.
Marchand de fruits et légumes.
Fruits et légumes, marchand des quatre saisons, on va le dire. Bref, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas le premier à s'être immolé. Il y en a eu toute une série avant. Et pourtant, rien ne s'est passé. Et il faut aller plus loin. Parce que là, c'est, je crois, de mémoire, c'est le 17 décembre 2010. Au début du mois de décembre, je crois que c'est le 5 ou le 6 décembre, s'est tenu, sous la houlette de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, et je crois présidée par Mme Guigou à l'époque, une réunion pour faire l'état des conflits dans le monde, avec tout un tas de politologues, des ambassadeurs, bref, la crème des politistes capables d'analyser la scène internationale. Eh bien, croyez-vous ce qu'il advint ? Pas un mot sur ce qui allait se passer après. C'est-à-dire que personne n'a vu le coup venir. Et ceux qui, bien malins, vous disent « Mais oui, mais quand même, on savait. » Je suis passé à Rome où j'ai rencontré les monseigneurs et notamment des gens qui connaissent bien l'islam, notamment l'ancien monseigneur qui était... Le père blanc là, avec lequel j'ai eu d'excellentes conversations, qui avait été au Soudan, qui est père blanc, qui est un Irlandais, et qui a été ensuite le représentant du pape en Égypte, au Caire, qui est un homme remarquable, qui connaît bien. Ils me l'ont dit, on n'a pas vu, alors qu'ils avaient quelques antennes, alors qu'ils avaient des échanges avec leurs églises. Moi, j'ai été en Libye, à Tripoli, j'ai rencontré ce qu'il restait de l'église catholique sur place. Vous avez conscience d'une religion qui meurt. Hein, faut le savoir. Bon, mais personne, le fameux institut romain Sant'Egidio, qui a notamment fait des médiations dans des affaires délicates, etc., sur des otages, oui, que j'ai rencontré également, personne n'a vu le coup venir. Alors après, on vous prédit l'avenir, hein, on sait tout, mais personne n'a vu le coup venir. Et donc ça, c'est quand même très important à savoir. Alors, il est évident que c'est un mouvement qui, par les réseaux sociaux, qui, par le francisage, les moyens de communication modernes, a gagné toute la région et a eu des fortunes totalement diverses. Et ensuite, il y a eu la ressucée, notamment avec le Soudan, avec l'Algérie, et certains articles, par exemple, d'un journal que je lis tous les jours le soir tout en le maugréant, si vous voyez ce que je veux dire, dit notamment sur le Maroc que ça peut être très instable. Voilà. Et que le Maroc, qui n'a plus son mot à dire, est en train de bouillir. En réalité, les explications que je donne à ce phénomène, elles sont bien sûr de divers ordres. Premièrement, depuis une cinquantaine d'années, vous avez des intégristes qui travaillent les foules. L'échec, bien sûr, de ce qui a été les options de développement socialiste d'un certain nombre d'États, que ce soit Nasser, que ce soit Boubédienne, ça a été des échecs. Et que tout d'un coup, la solution, c'est l'islam. Bon. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a sous-estimé les forces occultes, mais qui étaient à l'œuvre. Vous savez que les frères musulmans, c'est né en 28-29 en Égypte. Hein, et je vais vous donner un cas, parce qu'ayant été en poste en Algérie, j'avais fait une étude sur les coopérations étrangères en Algérie. C'était à une époque où la France avait encore 4000 coopérants. ne l'oublions pas, 73-74. Et Boumediene avait un projet. C'est qu'il voulait couper, non pas les relations politiques, mais les relations linguistiques avec la France. Donc il fallait arabiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à Nasser en lui disant « Donne-moi des professeurs d'arabe. » Très bien. Qui est une belle langue, hein, l'arabe. Il ne faut jamais l'oublier. Quand j'entends le débat en France sur un certain nombre de critiques à l'égard de l'arabe, il faut apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce qu'ils sont là en face de nous, à 1 milliard d'hommes. Bien. Et donc, il lui dit « Envoie-moi des professeurs d'arabe. » Qu'est-ce qu'a fait Nasser? Je vous le donne en 1000. Il lui a envoyé 4000 frères musulmans dont il voulait se débarrasser. Lesquels n'ont pas appris l'arabe, ils ont monté des madrassas et l'ont appris le Coran intégriste. Et voilà pourquoi, 15 ans après, c'est la guerre civile en Algérie. C'est aussi simple que ça. Et donc on a sous-estimé complètement cette puissance eschatologique et intégriste religieuse de ces mouvements qui étaient à l'œuvre. Et on a vu ça partout. On a vu ça partout. On l'a vu en Syrie, comme je vous l'ai dit, en disant « attention, il faut se méfier ». Et je tiens à dire que si les Russes n'avaient pas soutenu Bachar, je le dis brutalement, et que nous, on bêle avec les loups parce qu'effectivement, il a massacré, hein, je ne suis pas le défenseur de Bachar, mais s'il n'avait pas été soutenu à la fois par les Iraniens, parce que ce n'est pas du tout la même sorte de terrorisme, et par les Russes, le Liban tombait. Le Liban tombait. Voilà au quoi on est arrivé. Et donc la politique étrangère de la France dans ce, sur place a été catastrophique parce que les salons parisiens, et Fabius pour ne pas le nommer, ont complètement accaparé à eux les crimes de guerre bien réels de M. Bachar, qui était un salopard, qu'il fallait flinguer. Alors attention, hein. Le père Hafez, il nous a tué un ambassadeur de l'ONU au Liban, je ne dis pas. Mais il fallait voir les choses telles qu'elles sont. C'est qu'en réalité, dans cette affaire-là, il était le défenseur d'une certaine conception qui n'est certainement pas la nôtre, mais qui est moins pire que celle de Daesh. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que je l'ai vécu quand j'ai rencontré, que nous sommes allés à 4 parlementaires voir Bachar aux grandes dames. Mais j'ai eu le soutien de mon groupe, hein, je tiens à vous le dire, je tiens encore la dépêche AFP, soutien en disant, parce que d'ailleurs il y a un article très intéressant dans le journal du soir qui dit que la diplomatie c'est l'art aussi de parler à des gens infréquentables.
Eh ben, sinon ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin
d'avoir sinon il n'y a pas besoin de diplomatie. Si vous parlez qu'avec vos petits copains, vous tournez en rond. Mais c'est ce que font les salons parisiens. Tous ces salonnards qui vous donnent des leçons de morale ne représentent à peine qu'eux-mêmes. Ils sont complètement à côté de la réalité. Et quand je suis arrivé à Damas, où on avait été une année précédemment dans une mission parlementaire avec Guigou, qui a dit d'ailleurs, elle était présidente de la commission des affaires étrangères, et elle va saluer la femme de Bachar. Elle revient nous voir, elle y est allée seule, entre femmes, n'est-ce pas, on va dire ça comme ça. Madame Bachar dit d'ailleurs qu'elle avait retrouvé des photos de sa belle-mère, qui était donc la femme du père de Bachar, Hafez, dans laquelle elle apparaissait en manches courtes à la mosquée des Omeyyades, ancien temple de Jupiter, faut jamais l'oublier, là où d'ailleurs il y aurait les mânes de Saint Jean-Baptiste, hein, là, qui serait dans une colonne enterrée et qui est vénérée d'ailleurs par toute la population. Eh bien, Guigou parle avec cette femme et elle est revenue en nous disant ceci. Cette femme est remarquable. Ça veut dire que si cet homme Bachar a épousé cette femme remarquable, c'est qu'il n'est pas complètement mauvais. Alors, je trouve ça suave, vous voyez, parce qu'il faut quand même rappeler un peu ce genre de choses. Et on avait été à l'époque, on a été à Alep. Et avec notamment le gouverneur d'Alep, il nous avait parlé qu'avec la Turquie, ça se passait à merveille, qu'ils allaient gérer les problèmes d'eau, etc. Et voilà, type après, bien évidemment, que la Turquie tombe à bras raccourcis sur Bachar. Donc je pose la question au ministre des Affaires étrangères, lors de cette visite qui a défrayé la chronique, et sur laquelle j'ai résisté, même si ça m'a valu parfois quelques acrimonies avec quelques personnes qui ont compris de plus que j'ai eu raison d'y aller, avec d'ailleurs deux sénateurs, et on avait eu ces fameux contacts qui avaient été pris par toute la presse internationale. Et je pose la question au ministre des Affaires étrangères, qui était de la vieille garde. Hein. J'ai oublié son nom, mais c'est facile à retrouver. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Turquie? Vous étiez véritablement marié, et c'était un mariage, c'était honeymoon, c'était, n'est-ce pas, tout baigné dans l'huile, etc. Et puis que maintenant, vous divorcez d'une manière brutale. Oh, il me dit, c'est très simple. Au début des événements, Erdogan est venu voir Bachar, me disent le ministre des Affaires étrangères, j'étais pas à l'entretien, mais il faut bien l'expliquer. Et à ce moment-là, Erdogan dit à Bachar, tu vas prendre dans ton gouvernement des frères musulmans. Bachar lui a dit non, pour moi les frères musulmans sont des terroristes et je ne les prendrai pas. À ce moment-là, Erdogan a dit à Bachar, tu vas avoir des ennuis. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui explique effectivement, que dans la guerre syrienne, il faut que vous sachiez, et ça je le tiens parce que je suis passé ensuite en Turquie, le service, le mythe, le chef des services secrets turcs a déclaré un jour à quelques journalistes un peu off the record, qui se sont empressés de l'imprimer, qu'ils avaient déversé en armes, en soutien aux rebelles, qui étaient en réalité Daesh, 1400 camions d'armes. C'est ça la réalité. Et souvenez-vous, c'est l'époque où, à Mossoul, lorsque Daesh, en Irak, a pris Mossoul, eh bien, il y avait au consulat de Mossoul turc 60 employés. Comme par miracle, ils ont été libérés sans entrave. Deuxièmement, vous savez qu'il existe dans le nord de la Syrie un mausolée d'un héros turc. Il y a eu un accord en 1924 entre la France qui avait le mandat et le reste de la République ottomane, ou de la Turquie, c'est-à-dire Atatürk, un accord pour que ça soit une sorte d'enclave et que, bien évidemment, les lieux soient respectés car c'est un héros de la Turquie. Très bien. Eh bien, figurez-vous que lorsque Daesh avait sous contrôle toute la région, les Turcs sont venus une nuit sans tirer un coup de feu, récupérer les dépouilles de ces héros nationaux et l'ont ramené. Comme dirait l'autre, il n'y a pas connivence. Et puis c'est l'époque où la Turquie laissait les camions de Daesh pleins de pétrole vendre à 14 dollars le baril le pétrole en Turquie. Donc le double jeu de la Turquie est total. Il faut le savoir. Et nous, bien évidemment, on a pris notre position sur, d'une part, les Américains et l'aura qu'avait Bachar, qui était, aux yeux des salons parisiens, un salopard. Ce qu'il est peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'en demeure pas moins que dans, je dirais, la lutte contre Daesh, il était là et il a eu le soutien des Iraniens, d'une part, ça c'est clair, qui ont pratiqué parfois des actions terroristes, mais c'est du terrorisme carrément sur ordre de l'État, parce que les chiites en eux-mêmes ne sont pas des sunnites, et c'est pas eux qui ont soutenu Daesh, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quand même une différence. Bon, et donc...
Il y avait l'Iran, la Turquie, la Russie qui étaient étroits...
C'est pas aussi simple que ça. Il y a, parce que premièrement il faut savoir que la certitude des alliances dans cette région du monde est quelque chose de très relatif. Et l'allié d'un jour, c'est peut-être le gars qui va vous filer un coup de poignard le lendemain matin. Donc, ça veut. Ensuite, il y a eu ces histoires. Quand vous prenez, par exemple, les problèmes d'armes chimiques, il y en a eu. Mais quand vous lisez les rapports des Nations Unies, vous vous apercevez que certaines attaques ont été faites par les rebelles eux-mêmes. Avec le soutien de qui? Vous savez, l'Arabie Saoudite, elle n'a pas les mains propres dans cette affaire. Parce qu'elle a soutenu très fort, notamment Al-Nusra, qui est une des filiales de Daesh, pour flinguer Bachar, qui, aux yeux comme il est une sorte de, il a promu une sorte de laïcité, est quelqu'un qui n'est pas acceptable au regard du wahhabisme. Bon, donc il faut relativiser tout ça et il faut se garder de jeter l'anathème de manière définitive. Parce qu'il y a des interrogations très fortes sur l'utilisation de certains gaz. Quand vous lisez le rapport des Nations Unies, Bachar l'a utilisé, personne ne va le nier, mais les gens d'en face aussi. Les gens d'en face aussi, dans un certain nombre de cas. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Donc la position de la France, au lieu de coller, soit aux Américains, soit Obama d'ailleurs, quand on collait aux Obama, Sarkozy s'est ramassé une belle gifle en retour dans les mémoires d'Obama où il l'a traité de tous les noms, ce qui prouve qu'Obama est aussi pas très intelligent.
Le passage est surprenant, oui.
Non, mais c'est pas surprenant. C'est parce que c'est la phrase de Virgile. Et retenez-la bien. Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Jamais de confiance dans l'alliance avec les puissants. Moi-même, j'ai traité les Américains à plusieurs reprises. Je les ai bloqués et ils me respectent. Et il fallait, parce qu'aujourd'hui, on serait, vous savez, dans les histoires de lois extraterritoriales, il faut taper du poing sur la table et pas se laisser faire. C'est scandaleux ce qui se passe. Et nous, on serait en droit de demander justement à la banque américaine qui a falsifié les comptes de la Grèce pour entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire la banque, on ne revient pas.
Goldman Sachs.
Goldman Sachs, oui, on pourrait lui demander au moins 300 milliards. Et c'est ça qu'il fallait faire. Moi, j'ai tanné le gouvernement pour qu'il les mette à l'arbitrage sur la base l'accord franco-américain sur l'établissement. Et c'est possible. Mais bien sûr, on ne le fait pas. On va lécher les fesses des présidents des États-Unis. On va se faire épousseter, n'est-ce pas, à Washington par M. Trump. On va passer devant tous les chefs d'État pour aller serrer la main de Trump comme l'a fait Macron. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc les Américains sont nos alliés, mais ne sont pas nos amis. Mettez-vous ça dans la tête. Et donc, il faut résister à ça, et ce n'est pas en conduisant la politique que nous conduisons actuellement, où nous avons véritablement brûlé nos vaisseaux sur un certain nombre de points, en termes d'indépendance. Toute la politique qu'avait fait Chirac, même s'il a calé un peu après avec les Américains, ce que je pourrais lui reprocher, c'est été effectivement d'avoir une position forte, indépendante, dans cette région du monde où nous avons des terrains propres qui ne sont ni allemands, ni anglais, ni américains, ni russes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc aujourd'hui, à l'égard de ce mouvement qui peut repartir, pourquoi il peut repartir? Parce qu'en réalité, le fondement même de ce qu'est ce destin malheureusement catastrophique et dramatique de ces États, c'est la croissance démographique. Et la croissance démographique annihile toute possibilité de projet. Pendant les événements, j'étais passé en Algérie avec une mission parlementaire et nous avions rencontré le directeur du plan. Eux ont gardé un plan, chose que nous devrions avoir également, pas confié à Beyrou, hein, je vous dis tout net.
Je pensais que vous étiez devenu un soutien de Beyrou, ça me rassure.
Non, le plan, moi je suis pour un plan, ça a toujours existé. Les Américains ont des plans. Simplement, les Allemands ont des plans. Ça s'appelle Stammtisch Deutschland, c'est-à-dire là où il y a des intérêts allemands fondamentaux, on les défend. Et c'est une sorte non pas de complot, mais d'action commune entre l'État allemand, l'université allemande, les syndicats allemands et le patronat allemand. Et ça existe. Et ça existe. Il y a un moment, il faut regarder les choses. Et nous, c'est les marchés. Ben, les marchés, ils vous donnent une réunion. Ils vous donnent une vérité à 15h, une à 16h, une autre à 18h. Donc, on ne peut pas gouverner un pays comme cela. Et quand on rôde aujourd'hui, indépendamment de certains philosophes arriérés qui ont déjà les deux pieds dans les poubelles de l'histoire, et je vise Luc Ferry, je suis désolé, les marchés ne répondent pas. La géostratégie veut que les États reviennent, qui ont la compétence de la compétence, reviennent. Ça ne veut pas dire qu'il faut retrouver un Gosplan à la soviétique, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont et juger correctement les forces et les réalités de ce monde. Et donc, ce qui se passe dans ces pays arabes, et qui malheureusement, à mon avis, va nous poser de grands problèmes, c'est l'explosion démographique. L'Égypte avait en 1950 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils doivent dépasser les 110. Ils accroissent leur population d'environ 1,2 million à 1,5 million chaque année. aucun développement n'est possible dans ces conditions.
Parce que s'ils posent de leur apporter de l'eau, de apporter de la nourriture,
Lorsque vous avez un développement avec une croissance de population supérieure à 2, impossible de décoller. Vous savez, je vais vous faire sans doute sursauter. La Renaissance est venue quand ? Elle est venue en 1450, c'est là où on la chiffre, et entre 1350 et 1450, les guerres, la peste et j'en passais des meilleurs, ont tué la moitié de la population française, les deux tiers des Allemagnes. Et c'est à ce moment-là qu'après l'acculturation du Moyen-Âge, qui a été fabuleux en termes notamment de technique, c'est reparti à la hausse. Eh bien, aujourd'hui, tous ces pays ne décolleront pas. Et l'autre jour, il y avait un papier dans Le Monde d'un journaliste qui était intéressant sur l'analyse du Maroc, qui disait que grâce au commandeur, grâce à la politique assez subtile, je lâche ça, mais je tiens ça vis-à-vis des intégristes, le Maroc y arrivait. J'ai pris ma plume, j'ai envoyé un message et il m'a répondu. Je dis oui, mais vous avez oublié une chose. Vous n'avez pas regardé la croissance démographique qui est supérieure à 2. Impossible de décoller. L'Algérie, c'est la même chose. Et l'Algérie, c'est très simple. En Algérie, dans les années 70-80, le plan des Nations Unies pour le développement, le PNUD, était venu les voir et leur a dit « Vous avez une croissance démographique trop forte, vous n'allez pas vous en sortir. » Les Algériens ont écouté les experts des Nations Unies, ils ont remis à l'aéroport tout de suite. Résultat des courses, derrière, c'est la guerre civile. Pourquoi ? Car lorsque nous avons rencontré le directeur du plan, c'était, je crois, un peu dans les années 2000, il nous disait, un peu pendant les événements, il nous a dit ceci, 80% de nos étudiants qui sortent des facultés n'ont pas d'emploi. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils filent au maquis.
Exactement. Donc ça fait des gens frustrés parce qu'ils sont diplômés,
mais chômeurs. Mais il n'y a pas d'avenir. Et chaque fois qu'un président de la République française arrive en Algérie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous entendez ? Des visas. Ils veulent tous foutre le camp. Bien. Et l'Algérie avait baissé sa croissance démographique pour descendre à 1,50, 1,56. Ça remonte à 2. Or, 2, il faut que vous connaissiez un chiffre. La croissance démographique annuelle aboutit, si c'est 2, vous prenez 72, vous divisez par 2, et au bout de 36 ans, vous doublez la population. Et ça, c'est la réalité du Maghreb Machem. La Tunisie, qui était en transition démographique, c'est-à-dire qu'elle ne bougeait pas, eh bien la population réaugmente. Passé un moment, dans les 10-15 ans, on disait la Tunisie, 10 millions d'habitants, ils sont à 15. Et pour l'Égypte, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on a des croissances démographiques qui vont tirer tous ces États vers le bas. Et donc, c'est insoluble sur le plan économique. Là-dessus, vous avez le prosélytisme de tous les fondamentaux qui dit « c'est parce que c'est une punition de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas des bons musulmans, etc. etc. » Donc, nous avons devant nous une bombe démographique, une bombe politique, une bombe intégriste, une bombe d'affrontement. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc ça pose, alors que faire ?
Je reviens par exemple sur la position de la France en 2011. C'était Nicolas Sarkozy qui était président à l'époque, Alain Juppé, premier ministre des Affaires étrangères. Il y a eu l'intervention en Libye qui a été décidée. Vous étiez à l'Assemblée à cette
époque. J'étais à l'Assemblée à l'époque, effectivement, on n'a pas vu.
Sarkozy a consulté l'Assemblée.
Oui, alors là, il y a une totale, alors là je vais le dire, totale miss, enfin, non pas des informations, mais mauvaise interprétation des faits. J'entends encore Sarkozy dire que si, effectivement, les Libyens ont chassé le camarade Kadhafi et autres, etc., c'est au nom de la démocratie. Pas du tout. Ils se sont débarrassés du zozo et que, bien évidemment, il a cru qu'ils allaient passer sur la voie de la démocratie. Non. Non, c'est pas vrai. C'est qu'en réalité, le fondement culturel, d'ailleurs, qui est-ce qui a repris ? Alors, on a la guerre civile en Libye, parce que c'est un sujet particulier. Je me souviens d'un... Il y avait un Premier ministre qui était émigré et qui rentrait d'Allemagne. Bon, il est arrivé, il a été Premier ministre pendant, je ne sais pas, quelques mois. Il a vu que c'était impossible, il a pris ses clics et claques et il est parti. Bien. Ensuite, vous avez effectivement, du temps de Kadhafi, il y avait certaines libéralités des mœurs, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Comme me disait une Libyen, elle était quoi ? Elle était libo-britannique, mélangée. Elle disait, celui qui a une affaire avec une autre personne, etc., c'est-à-dire il y a d'adultère, c'était réglé gentiment et on ne pourchassait pas les impies. Bon, mais ce qui est certain, c'est que la réalité du pays n'est pas du tout, je dirais, l'aspiration vers la démocratie. Non, c'est une aspiration, on va dire, vers... on a du pétrole, on veut vivre correctement, etc. Mais ce n'est pas la démocratie au sens où nous l'entendons. Bon. La Tunisie est un peu l'exception. Mais combien de temps ça va durer ? La Tunisie est un peu l'exception parce que, effectivement, et là, la France, à travers notamment les franco-tunisiens et les gens qui vivent chez nous, les femmes notamment, ont fait de la résistance et ont réussi à bloquer un certain nombre de choses dans la Constitution. Et paradoxalement, le fameux Ennahda, qui est le parti islamiste, avec Ranouchi à sa tête, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, que nous avons même reçu à Paris, a eu quelque chose qui est assez étonnant, c'est que dans son parti, il a coupé le lien avec la religion et l'État. C'est-à-dire que vous avez Ennahda, qui est le parti islamiste par excellence, qui prend ses distances vis-à-vis d'une vision totalement religieuse. Comme diraient certains, taqiya, c'est-à-dire on avance masqué, peut-être, mais c'est le cas. Mais surtout, la Tunisie est aux prises avec des maquis, tant sur la partie tunisienne et algérienne, et dans le sud, où ils ne contrôlent rien. Donc, il y a malheureusement, de temps à autre, des assassinats, des attentats. Nous-mêmes, j'ai encore, je dirais, souvenir que nous avons, notamment au Bardo, déposé des germes, recueilli, etc. Parce que là, il y a eu un attentat qui a fait beaucoup de morts, comme vous le savez. L'Algérie, elle n'est pas sortie. AREC, le mouvement AREC, etc., le fait que ça soit... un général de 75 ans qui est repris et qui est de la famille de Bouteflika, ça va pas le faire. Et là encore, le problème, c'est l'expansion économique, possible ou non. Le Maroc, à mon avis, c'est un baril de poudre. L'Égypte, c'est un peu différent. L'armée a toujours eu une position extrêmement forte. Ils ont débarqué Morsi, ça c'est évident. À ce titre, ils ont... ils surveillent, mais il y aura des morts, ça c'est clair. Et ils ne peuvent pas s'en sortir avec la croissance démographique. Jordanie, je suis allé à plusieurs reprises à Amman, c'est méconnaissable. C'est l'explosion démographique avec aussi des réfugiés de Syriens, des autres. Le Liban, c'est un chaos. La Turquie, c'est à la merci, je dirais, d'un coup d'État tôt ou tard. Donc vous avez une instabilité forte un peu partout. Et pour moi, le problème fondamental, c'est l'explosion démographique qui va permettre à tous les excès, à tous les prosélytes. Parce que, pour revenir à l'islam intégriste, c'est récurrent, je vous l'ai dit, c'est des phénomènes sectaires au sein de l'islam. Tôt ou tard, les islamistes seront, du moins les musulmans en général, les mettront de côté en disant « maintenant ça suffit ». Voilà. Mais ça prendra 50 ans. Ça ne se fera pas en l'espace de 15 jours. Et ça se fera par une prise de conscience interne des musulmans sur les excès et la mauvaise voie où ça conduit.
Et pour la France, dans quelle pourrait être sa politique justement ? Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal perdu la partie, on a perdu les leviers. L'expédition en Libye a été était un fiasco.
Totalement.
En Syrie, on a également été à côté. Comment est-ce qu'on peut
revenir, premier axe,
sachant qu'on avait quand même des liens culturels extrêmement forts aussi avec
la
Syrie.
Bien sûr, et on avait une école notamment sur l'islam parmi les meilleurs analystes au monde. Donc une très bonne connaissance. Il y en avait d'ailleurs en Syrie que j'ai rencontré, il y en avait en Égypte. Et malheureusement, pour des raisons X et d'économie, on a coupé les vivres. Donc, axiome de base, indépendance totale. La politique étrangère de la France, elle se fait à Paris, ni à Bruxelles, ni à l'OTAN, ni bien évidemment à Washington ou à Berlin. Clair, net et précis. Nos intérêts ne sont pas identiques aux autres. Bien sûr, nous pouvons faire des actions communes. Bon, ça. Deuxièmement, il faut redonner à la puissance du ministère des Affaires étrangères des moyens. Or, ça a été depuis 50 ans, on a coupé, on a réduit le nombre de postes, etc. Il faut arrêter avec les illusions de la diplomatie européenne. C'est un scandale. Il faut flinguer ce truc-là, ça ne sert à rien.
Donc, on ne sait pas qui la dirige. Enfin,
alors, premièrement, si. On sait que ce sont les lobbies, c'est l'Allemagne, etc. Vous l'avez vu dans l'affaire avec la Chine. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier papier que j'ai envoyé, où j'ai intitulé ça « Chinoiserie allemande ». Et c'est vraiment des chinoiseries. On s'est fait berner. Et jamais, d'ailleurs, de toute façon, ce qui a été accepté par les Chinois, ils ne le respecteront. Parce que les Chinois s'en foutent des accords. C'est un moment dans l'histoire, et après, on voit comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on n'applique pas. Et moi, ayant négocié un accord franco-chinois dans la protection et l'encouragement des investissements, je peux vous le dire, on avait mis, et j'avais proposé la clause CIRDI. Qu'est-ce que c'est que la clause CIRDI du traité de Washington, comme vous le savez, 1965, mon cher ami? Eh bien, c'est les arbitrages entre l'État et un investisseur privé. Parce qu'on ne croyait pas dans un certain nombre de justices de ces pays-là. Même si les écolos, je dis colonialisme, etc. C'est qu'ils ne connaissent pas le dossier, une fois de plus. Eh bien, cette clause CIRDI, les Chinois l'acceptent en 84-85. Alors qu'on négociait avec les Bulgares, avec Jean-Claude Trichet, ils la refusaient. Puis 20 ans après, faisant un rapport sur la politique industrielle, je me rends en Chine, je demande à notre conseiller de l'ambassade économique si on avait appliqué les clauses CIRDI. Il dit oui, un jour il y a une entreprise française qui s'en est prévalue, ils les ont pris, ils les ont foutu dehors, terminé. Donc, il ne faut pas croire dans la parole chinoise. Pour eux, un accord, c'est un instant T. Et ce n'est pas l'après. Voilà.
Dernière question, Jacques Mierx, on arrive au terme de cette émission sur la... sont les conseillers aussi, notamment au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, le président ne prend pas ses décisions seul. Enfin, en tout cas, il se fait, espérons le conseiller.
Écoutez, normalement, et ça c'est le drame d'un certain nombre de présidents de la Ve République, ça commence avec Valéry Giscard d'Estaing, ça se poursuit avec Chirac un peu moins, mais il y a eu ensuite
Mitterrand.
Non, Sarkozy, et puis Mitterrand, il avait ses vues, lui, non, il avait une certaine autonomie dans la décision. Bon, dans l'affaire du Rwanda, là, Le Monde vient de sortir un papier qui est complètement manipulé par des gens qui se font les avocats du FPR, c'est-à-dire de Kigali et de ce criminel
de guerre. Ça fait 20 ans que ça dure.
Voilà. Mais pour avoir suivi cette opération-là, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Que les accusations contre la France et que Mitterrand n'ait pas vu le coup venir. Mitterrand, lorsqu'il y a eu le début, notamment lorsque l'avion a été abattu d'Averama en 94, a dit « attention, ça va être terrible ». Donc il était parfaitement conscient des dangers, contrairement à ce que racontent ces journalistes à la petite semaine. Donc il est clair que... Ce cas, ça a débuté. Il y a un certain nombre de présidents qui ont cru qu'ils connaissaient mieux les relations internationales que tout l'appareil du ministère des Affaires étrangères. Alors c'est comme ça que Giscard s'est fait bananer par Brejnev à Varsovie. Vous souvenez de l'affaire du petit télégraphiste de Varsovie, où il avait monté une rencontre avec Brejnev, avec un conseiller qui était Poudade, et qu'ils avaient court-circuité tout le Quai d'Orsay et le ministre des Affaires étrangères pour ensuite aller essayer de négocier avec Brejnev, qui lui avait dit « Mais oui, dans l'Afghanistan, on se retire dans 15 jours. » Les 15 jours ont duré. Et là, Giscard s'est fait absolument tromper, manipuler, parce que ça ne tenait pas la route. Ensuite, Sarkozy n'aimait pas les diplomates. Ben, je suis désolé. Il y a un moment, s'ils avaient été un peu intelligents, ils auraient regardé les choses à deux fois. Hollande, c'est un peu... Bon, lui, il n'avait pas vraiment de... Il suivait Merkel. Et quant à Macron, c'est une catastrophe. Macron pense que, premièrement, parler de la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Hein, je suis désolé. Et on n'est pas là pour coller à Berlin. Et surtout, parce que sa politique étrangère a été un tête-à-queue à 180 degrés. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Bon, et donc... la politique étrangère, il faut éviter que le président fasse ce qu'on appelle, ce que j'appelle la diplomatie en direct. Il doit y avoir, lorsqu'on fait monter le président de la République ou le chef de l'État, c'est la formule qu'il y avait sur les canons de Louis XIV, ultima ratio. C'est-à-dire, c'est l'argument définitif. Mais si c'est le président qui se plante, alors on me dirait, Macron s'est planté de multiples fois. Mais après, il n'y a plus rien.
Plus personne.
Donc, normalement, vous changez un ambassadeur, vous pouvez changer un ministre des Affaires étrangères, mais vous ne pouvez pas changer le chef de l'État, sinon il y a crise de régime. Et donc, il faut qu'on retrouve de la distanciation dans ce monde immédiat, qui est un monde immédiat et qui est dans lequel nous sommes dans un village planétaire. La première qualité d'un diplomate, d'un ministre des Affaires étrangères et de tout ministre d'ailleurs, et du chef de l'État, c'est de prendre de la distance et de ne pas faire ce qu'a fait Villepin, ce qu'a fait Jox, de réagir. C'est pas la peine de faire une enquête, on connaît les coupables. Vous vous souvenez de ça? Sur des histoires de croix gammées qui étaient sur des tombes de nos compatriotes israélites. Eh bien, la première fonction d'un chef de l'État aujourd'hui, dans ce monde immédiat, dans ce monde d'un village rétréci où tout se sait immédiatement, c'est de prendre de la distance et de résister à la pression médiatique. Ah ben vous répondez pas, non, et je vous emmerde. Je ne réponds pas et je vous dis vous attendrez. Il faut savoir résister. Mais monter, et puis alors surtout, faut pas faire des discours à la pathos, parce que ça devient intolérable. Premièrement,
insupportable à écouter en plus.
Oui, bah, on ne sait plus ce qu'il a dit ou du début. Il faut ensuite faire une, je dirais, nommer une commission pour savoir ce qu'il a voulu dire. Bon, donc, le chef de l'État doit être économe de sa parole. Relisez le fil de l'épée. Dans le fil de l'épée, De Gaulle écrit que le chef doit avoir une certaine distance. Sinon, il n'est plus chef. Et comme disait la formule des grands-mères, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Eh bien, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut prendre de la distance. Mais c'est dramatique aujourd'hui que dans ce monde où les choses vont très vite, où grâce à un appareil qui s'appelle l'iPhone, vous pouvez rentrer en communication avec l'empereur de Chine, le premier ministre du Japon, etc., il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir analyser, se poser. Un homme que j'ai pratiqué, qui n'a pas toujours été, je dirais, avec lequel j'ai eu à bretter aussi un peu, qui était Édouard Balladur. Son conseiller diplomatique, qui était un ami, me disait « Mais Jacques, tu devrais savoir que dans l'agenda d'Édouard Balladur, il y a des après-midi entières où il n'y a rien. » Eh bien, il a raison, Édouard, premier décadent. Il a raison, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il faut prendre le temps de réfléchir. Et l'homme pressé, qui est un homme occidental, les Chinois savent faire. Et je vais en terminer par ça. Quand on a négocié avec les Chinois, deux choses. On a vu arriver dans l'une des dernières réunions rue de Rivoli, là où maintenant il y a des beaux Hercules, n'est-ce pas ? Dans la délégation chinoise, il y avait un petit jeune là, qui était là. On ne l'avait pas vu avant. Et ce petit jeune, il avait été envoyé, tenez-vous bien, 3 ans avant le début de la négociation à Rouen, dans l'université, où il avait étudié tous les accords bilatéraux que nous avions passés et dont j'avais en charge à la direction d'affaires juridiques et d'Orsay. Il les connaissait pratiquement mieux que moi. 3 ans avant l'ouverture des négociations. Et à un moment, les Chinois posaient toujours les mêmes questions après être allé à Pékin, revenu, et poser la même question pour savoir si on donnait toujours les mêmes réponses. Jean-Claude Trichet, excédé, qui était le chef de la délégation, sort de la salle de la réunion et de la salle des conférences et me dit « Nous font perdre ces temps ». Je lui dis « Jean-Claude, tu as tort. La France est éternelle et la Chine est millénaire. Donc tu prends le temps de négocier. Et l'homme occidental est un homme qui va trop vite. Il doit se poser, il doit se réfléchir, car il n'a plus la main, parce que le monde est multipolaire et le monde est aujourd'hui fait. Nous sommes dans l'ère des puissances relatives. Ne l'oubliez pas. »
Merci beaucoup, Chakmiar. C'est la réflexion sur les printemps chrétiens, les printemps arabes, pardon. Et j'espère que ces émissions vous permettent justement de prendre de la distance et de réfléchir. Vous pouvez également retrouver deux autres émissions consacrées au printemps arabe, un sur le Maghreb et une sur la guerre en Syrie, pour compléter cette série que nous avons réalisée à l'occasion du 10e anniversaire des printemps arabes et des remous au Maghreb et au Mashrek. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.